Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
L'évangile de Jean au chapitre 15. Oh, je l'avais déjà dit. Chapitre 15, c'est un chapitre clé que beaucoup connaissent parce que je suis le cep, je suis le vrai cep, dit Jésus, et mon père est le vigneron, et le sarment, bien tout ça, nous connaissons, mais c'est parce qu'on connaît qu'il faut parfois le relire. Et je vais lire avec vous les 15 premiers ou les 14 premiers versets. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Car vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera fié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et on peut lire la suite parce que c'est toujours le même sujet. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est très simple. Et il y a un mot qui revient souvent, 10 fois, c'est demeurer. Et un autre qui revient 6 fois, c'est fruit. Demeurer et fruit. Pour porter du fruit, il faut demeurer. Il faut demeurer en Christ, il faut demeurer en Jésus, il faut demeurer dans son amour, il faut demeurer dans sa parole, et pour porter du fruit, demeurer. C'est simple. Et pourtant, c'est ce qui est le plus difficile. Alors certains ont pensé que cette parabole avait trait au salut. Et en fait, elle s'adresse plutôt aux croyants pour qu'ils portent beaucoup de fruits. C'est pas pour que on soit sauvé que Jésus parle ici, puisqu'il parle à ses disciples, il est avec eux, mais pour qu'il porte. Et c'est vrai que la question que je pressens, mais que je pressens dans beaucoup d'interventions, dans beaucoup de conversations comme ça, c'est quel est le minimum que je dois faire pour ne pas perdre mon salut. Vous m'avez compris? Quel est le minimum que je dois faire pour ne pas perdre mon salut? C'est triste, mais ça se trouve. Et si on réfléchit, si vous réfléchissez, parfois, bien, il y a cette pensée. Quel est le minimum que je dois faire pour ne pas perdre mon salut? Alors que là, Jésus ne parle pas du minimum pour être sauvé, mais il parle du fruit que porte celui qui est sauvé. Et c'est un encouragement ce matin, eh bien, toi qui es sauvé, porte du fruit, porte du fruit. C'est vrai que souvent on a regardé cette parabole comme il y en a mis un peu l'accent sur les mauvais sarments, on les coupe, on les retranche, on les brûle, et terminé. Mais regardez tous les versets qui parlent eh bien, de ce qui est positif. Et c'est cela qu'il faut regarder. C'est tout le côté positif. Et aussi, eh bien, la leçon qu'il faut en retirer. Demeurez. Demeurez en Christ. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. On ne peut pas porter de fruits si on ne demeure pas en Christ. Alors, tout à l'heure, je vous dirai en quoi ça consiste, parce qu'il y a des conditions. Et j'ajouterai simplement ceci, c'est pour qu'on comprenne un petit peu, parce que on vit dans une époque, et le vigneron, bon, ici, c'est pas le pays de la vigne, hein. On sait pas trop ce que c'est que la vigne. Mais Pline le Jeune, eh bien, avait écrit dans son histoire, eh bien, comment on cultivait la vigne, c'est pas qu'il donnait des conseils, c'était ce qui se passait. Et alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que le vigneron, eh bien, parce qu'il y a un mot là, qu'on parle couper, en fait, le même mot peut aussi dire élever ou relever. Et nous, on voit surtout le mot couper, retrancher, alors que, en fait, eh bien, ce qui est important dans cette parabole, c'est ce que fait le vigneron, c'est-à-dire que normalement, les feuilles, ou plutôt les sarments, ils ont tendance à tomber. Et vous le savez très bien, ils tombent comme ça. Alors, le but du vigneron, c'est de les élever, de les relever et de les attacher. Ça, c'est son travail, il les attache. Et les sarments tombent. Mais alors, il fait aussi des choix. Et le choix qu'il fait, eh bien, c'est qu'il y a certains sarments, eh bien, qu'il va laisser tomber. Et parce que, il y a les sarments qu'il a décidé, qui porteront du fruit cette année, maintenant. Et puis, il y a ceux qui, après avoir porté du fruit, on va les couper. Et il relève les autres. Eh bien, pour l'année d'après, voyez. Alors, c'est pas osé le penser. Et il y a ce côté du vigneron. Bien sûr, il y a la taille aussi. En taille, c'est pas coupé carrément, c'est pour qu'il ne porte pas des fruits. Taillé, eh bien, c'est pour qu'il porte encore plus de fruits. Et on le sait pour les arbres. Si vous voulez que les arbres portent des fruits, eh bien, il faut les tailler. Alors, il ne faut pas les tailler n'importe comment. Il faut connaître. Et ça, c'est le travail, je dirais, du vigneron. Et il y a aussi qu'il faut aussi enlever certains bourgeons, parce que ben, sinon la grappe va être toute rabougrie, toute minuscule. Ça va faire plutôt comme disait mon beau-père qui était vigneron, il disait ça va faire des plombs pour la chasse. Hein, alors quand les raisins étaient tout petits, alors il disait c'est des plombs. Ces plombs de... Alors, pour pas que ça fasse des plombs, bien, il faut enlever certains bourgeons et en faire un choix. Et c'est là la leçon eh bien, que nous apprend Jésus, voyez. Je ne voudrais pas qu'on soit négatif trop vite. Il y a les sarments qui vont porter du fruit. Ils vont porter du fruit cette année. Mais il y a aussi des sarments qui porteront du fruit en le futur. À moins que vraiment, mais là c'est aussi le choix, qu'ils ne sont pas bons, ils sont rien du tout. Voilà, alors ça c'est un peu, il y a une sorte de coexistence entre les sarments qui portent du fruit immédiatement et puis ceux qui porteront dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est important, c'est qu'un sarment doit porter du fruit. Voilà, c'est ça le but. Il doit porter du fruit. Et ça veut dire ceci, le chrétien, seulement au salut qu'il est appelé, mais il est appelé à porter du fruit. Chacun d'entre nous est appelé à porter du fruit. Voilà. Et c'est pas de dire, je suis sauvé, ça revient à cette question, quel est le mieux que je dois faire pour ne pas perdre le salut? C'est pas une question de salut. Le salut, si ce n'était que cela, eh bien ce serait vraiment très maigre. Parce que quand Abraham a été appelé par Dieu, il lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça c'est, je dirais, ce qui nous attend tous, c'est l'appel que Dieu nous adresse. C'est pas simplement de marcher par la foi et puis d'aller de Babylone ou de cette région en Israël, en futur Canaan et futur Israël, mais c'est d'être une source de bénédiction. Et cette source de bénédiction, bien, c'est exactement la même chose pour Dieu, pour nous. Aujourd'hui, le chrétien doit être une source de bénédiction. Et tu peux te poser la question, est-ce que je suis une source de bénédiction? Pour qui? Une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi, pour ma famille, pour ceux qui sont au loin, auprès, ceux de mon village, etc. Est-ce que je suis une source de bénédiction? Et ça, c'est le projet de Dieu, c'est que chacun d'entre nous doit être une source de bénédiction. Mais cette source de bénédiction, nous ne pouvons pas l'être tout seuls. Il faut qu'il y ait quelqu'un, eh bien, qui la mette en œuvre. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Christ, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que il y a des notions qui sont fausses. On dit souvent, deviens chrétien et tu seras heureux. Si c'était ça, ben, je dirais, entre nous, franchement, tout le monde se convertirait. Tout le monde serait déjà converti. Vous voyez ? Si c'était que ça. Si c'est comme « deviens chrétien et tu ne souffriras plus ». Rien que parce qu'on ne veut pas souffrir, ben, tout le monde deviendrait chrétien. Voyez, c'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ce que Jésus a annoncé. Et la preuve, c'est que lui-même, les filles, la passion du Christ, nous le montre, qu'est-ce qu'il a souffert. Et c'est pas du tout cela. L'objectif, c'est pas d'être chrétien, eh bien pour ne pas souffrir et pour être heureux. Ça n'a pas du tout ce sens-là. Ce que Dieu nous appelle à être, c'est porter du fruit. C'est pas de dire, je suis heureux, je suis tranquille. Mais il y en a quantité qui sont heureux et qui ne sont pas chrétiens, vous voyez. C'est pas là. Mais c'est porter du fruit. Et un fruit qui glorifie, je l'ai lu tout à l'heure. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le disciple, c'est celui qui porte du fruit. À chacun d'entre nous de se poser la question, mais Seigneur, bon, est-ce que je ne me trompe pas? Moi, je suis chrétien, c'est simplement pour être heureux et pour ne pas souffrir. Non, tu peux souffrir, mais dans la souffrance, comme pour celle de Jésus, il y a toujours cette réponse, eh bien, même si tu souffres, je serai avec toi. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, ma grâce te suffira, tu seras toujours, je serai avec toi. C'est pas tellement, vous voyez, Dieu, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, Dieu ne se préoccupe pas tellement de la souffrance. C'est pas tellement son problème pour nous. Ça peut être un peu dur que je dise une chose pareille. Que Dieu ne se préoccupe. Non, ce dont il se préoccupe, c'est que nous soyons à lui. Parce qu'on peut très bien ne pas souffrir et à cause ne jamais être préoccupé de lui. Tandis que celui qui souffre dit, mais quel est le sens? Quel but? Qui peut me délivrer? Qui peut me changer? Et le problème, c'est pas tellement la souffrance, c'est le péché. C'est le péché qui fait souffrir. C'est le péché. Mais lui qui ne fait pas de péché, il n'y aurait pas de souffrance du tout. Dans le royaume de Dieu, dans le ciel, le paradis, il n'y aura pas de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas le péché, c'est tout. C'est le péché qui nous fait souffrir. C'est le péché qui fait que nous faisons souffrir les autres, et c'est le péché aussi qui nous fait souffrir du fait des autres. C'est aussi le péché qui fait que nous souffrons à cause de cet univers qui a été quand même bougé par le péché. Croyez pas que la terre, a été exclue, que la terre, les saisons, tout a été touché par le péché. Et c'est pour ça que, des fois, on voit des cataclysmes, on voit des tas de choses comme ça. Ça, c'est aussi une conséquence du péché. Mais, un jour, le Seigneur, lorsque nous serons face à face, et lorsque nous vivrons dans son amour, quand nous vivrons dans le royaume, tout cela ne sera plus. Mais toutes ces choses peuvent se passer. Toutes ces choses peuvent se produire. Mais, comme dit l'apôtre Paul, rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça qui est important, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Est-ce que, il y a cet amour dans mon cœur qui fait que, quoi qu'il arrive, je puisse dire, je t'aimerai toujours, je t'aimerai encore. Et je sais que tu m'aimes. Ce que le diable veut, c'est de mettre dans notre esprit, cette pensée qu'il a déjà développée avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est « Dieu vous aime-t-il vraiment ? Est-ce que Dieu vous aime vraiment ? Parce que si vous aimez, il vous laisserait tout faire. » Mais c'est pas parce que on aime ses enfants qu'on leur laisse tout faire. Vous vous rendez compte, moi ? Ce que je faisais, quand les enfants étaient petits, surtout mes garçons, j'enlevais tout ce qui était dangereux. Parce que tout en les aimant, m'ont protégé. Et de ne pas faire comme moi qui prenait le rasoir de mon père pour me raser. Mais alors, c'était pas du tout rasé, c'était pour me couper, vous voyez. Alors, c'est de leur éviter, ces déboires. Et l'amour, c'est d'éviter, c'est d'empêcher ces choses-là. Alors, ce matin, le vigneron, c'est celui à qui nous faisons pleinement confiance. C'est lui qui choisit le terrain. C'est pas vous qui choisissez le terrain. C'est lui qui choisit le terrain. Et parfois, vous voudriez pas demeurer, habiter, rester dans ce terrain parce qu'il est trop ensoleillé, ou il n'y a pas assez de brume, il n'y a pas assez d'eau, etc. Mais le vigneron, lui, sait pourquoi il vous a placé sur ce terrain. Et je suis frappé parce que il y a d'un côté de vin, des graves, l'autre c'est une autre sorte de vin, etc. Et tout ça à cause de l'ensoleillement et aussi de la qualité de la terre. C'est la terre qui fait tout. C'est Jésus qui choisit, c'est Dieu qui choisit le terrain dans lequel nous devons être. Et c'est ce terrain qui fera que le raisin aura un autre goût. Voyez. C'est ça qui est important. Ce matin, non simplement, que Dieu est celui qui choisit le terrain. Le vigneron est aussi et toujours Dieu, c'est celui qui émonde et taille. C'est pas à nous de lui dire, non, pas trop loin, pas trop haut, etc. C'est lui qui juge de ce qui est utile. Et il taille, et c'est à nous de lui faire confiance. Disons, Seigneur, taille comme tu veux. Taille comme tu veux. Et je vais tout à l'heure donner un exemple, parce que souvent dans la taille, on a l'impression que c'est le péché que Dieu taille, qui coupe. Mais pas du tout, pas du tout. Quand on coupe et on taille une vigne, on note pas le péché. Mais c'est pour que le reste porte du fruit. Voilà. Et quand Paul n'avait pas péché, quand il dit, Seigneur, je t'ai demandé par trois fois, que cette écharde dans la chair, me soit ôtée, c'était pas un péché, c'était pas du tout un péché, vous voyez, un péché. La taille, c'est pas forcément, qu'on coupe parce que c'est mauvais, parce que c'est péché. Non! C'est parce que, ma grâce te suffit, c'est tout. Il voulait pas qu'il il puisse devenir orgueilleux à cause de tout ce qu'il avait reçu, de tout ce qu'il avait vu. Il dit, je connais un homme qui a été jusqu'au troisième ciel, était-ce dans mon corps, était-ce sans mon corps, je ne sais pas, mais j'ai vu des choses ineffables. Il n'en parle même pas, juste une ligne, alors que d'autres en font des livres avec un tome 1, un tome 2, etc. Eh bien, là, c'est la discrétion la plus absolue. Mais Dieu a taillé, clac, il a dit non. Si je ne le taille pas, ça deviendrait un péché, mais c'est pas un péché. C'est pas un péché. Alors parfois, bien, nous sommes étonnés et dire, mais pourquoi est-ce que telle chose est arrivée? Pourquoi Dieu, tac, il a coupé? Pourquoi il a, clac, il a coupé? Ah, c'est un péché. Non, c'est pas un péché, vous voyez? C'est pas un péché. C'est pour que ça ne devienne pas un péché pour toi. Voilà. Parce qu'après, si Paul était devenu orgueilleux, il a dit, moi, je suis le plus fort, le plus grand. Dieu m'a fait des révélations extraordinaires. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous n'avez jamais rien vu, etc. Non, pas du tout. C'est l'humilité qui manifeste que Paul, il parle. C'est la discrétion qu'il a sur certains événements de sa vie. Il dit un mot, mais on aimerait en savoir davantage, voyez. Il parle de sa relation avec Dieu, de la prière, de ceux qui le trahissent et tout ça. Mais toujours, brièvement, vous voyez. C'est là que je reconnais vraiment son ministère apostolique. Vraiment, c'est là qu'on a, on voit là, le signe, la marque du ministère apostolique. Et pas se livrer dans l'emphase, etc. Et il dit simplement cela. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, simplement, vous voyez. C'est pas au début, mais c'est à la fin qu'il leur révèle cela. Il dit, bon, s'il faut parler, oui, je parlerai, eh bien, des naufrages, des coups, des lapidations, de la prison, tout ça, mais c'est presque en m'excusant de devoir en parler, parce que ces choses soient une manière de devenir orgueilleux. Parce que, vous voyez, on peut, dans nos relations et dans notre communion avec Dieu, après devenir orgueilleux. Et dire Dieu, Dieu, Dieu. Moi, vous savez, les gens qui disent Dieu, 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 ils ont toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu m'a montré, moi je dis Dieu, eh bien Paul, il était beaucoup plus, comment dirais-je, discret. Et émondé, eh bien, c'est tout simplement quelque chose, et on le laisse le Seigneur, on le laisse parce que couper quelque chose qui pourrait devenir un péché. C'est, et ce que Dieu veut, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Alors le fruit aussi, là, j'en parle avant que j'oublie, c'est quoi le fruit? Alors, il y en a qui pensent, et les deux ne s'opposent pas, bien sûr, que le fruit, eh bien, c'est d'amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais le fruit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, la tempérance. C'est ça le fruit que Dieu veut que nous portions. Et quand nous portons ce fruit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le fruit, évangélisation, tout ça, ça se fait tout seul. Une église qui porte ce fruit-là, ben, c'est une évangéliste qui a une église qui évangélise sans faire d'efforts. Et nous pensons que le fruit, eh bien, c'est comme faisaient les pharisiens. Et Jésus leur reprochait, oui, vous courez le monde pour faire un converti, un prosélyte. Et vous en faites un enfant de la géhenne. Voilà. C'est ça. Vous en faites un enfant de la géhenne. Parce que vous cherchez à convertir. Moi, je me souviens d'une personne, vous ne savez pas bien tourner, vient un jour, on me dit, voilà, ma première convertie, c'était sa mère. Mais quand j'ai écouté tout ce qui s'était produit comme désastre sur le plan personnel, et c'était tout de suite après un baptême, là, comme ça, j'ai dit, bien, c'est la conversion de l'orgueil. Et après, ça a été catastrophique, voilà. Parce qu'en fait, il n'avait pas compris que le fruit, c'était l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Et ça, vous pouvez pas le faire vous-même. Ça, vous pouvez pas le produire vous-même. Parce que c'est, il y a les simulacres, comme on dit. Ah oui, on peut aimer. On peut aimer comme les hypocrites, hein. On peut faire la paix, mais petite tape dans le dos, Mais c'est pas sérieux. C'est dans le cœur que ça doit se passer. Voyez. Alors, on peut pas la maîtrise de soi. Si vous êtes en train d'être maître de vous et puis intérieurement, comme on dit, ça boue comme une cocotte minute, c'est pas la maîtrise de soi, ça. Hein. Alors non, la maîtrise de soi, ce sont des choses qui viennent de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les manifeste. Parce que Jésus était cela. Et ça ne veut pas dire que... Alors, maintenant, on prend prétexte de ce que Jésus s'est mis une fois en colère en chassant les marchands du temple, en disant, j'ai le droit de me mettre en colère. Vous voyez ? Si seulement tu te mettais en colère pour les choses, eh bien, qui sont inadmissibles parce que le péché a atteint un tel degré, alors que tu te mettes vraiment en colère. Mais le Seigneur nous dit, enfin c'est Paul qui nous dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que avant que le soleil se couche, eh bien il faut déjà avoir réglé ce problème. Hein. Pourquoi ? Parce que la nuit vient, et alors il y en a un autre qui ajoute à la colère quelque chose qui était... C'est une réaction la colère, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui nous choque, comme cette maison, ce temple de Jérusalem, ils en avaient fait une maison de qui était d'abord une maison de prière pour toutes les nations, ben ils l'avaient transformée en une caverne de voleurs, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on ne vivait pas la Torah. Mais en plus, on faisait tout un commerce tout autour. Ouais. Alors là, Jésus n'a pas pété les plombs, hein. Mais il a dit, il a montré ce que c'était que le jugement, quoi. Et encore, c'était qu'une petite, un petit trait. Que sera-ce quand le Seigneur viendra lui-même, hein. Mais bon, ajouter à la laisser la nuit passer sur notre colère, parce que pendant la nuit, alors vient quelque chose de plus, vous n'arrivez pas à dormir. Pourquoi ? Parce que vous échafaudez toutes sortes de plans vengeurs. Il dit, oui, il m'a dit ça, il a fait ça, eh bien je vais me venger, je vais faire un croche-patte, je vais cracher la figure, je vais faire une vacherie, etc. Et bon, j'ai pas besoin d'allonger la liste, parce que vous savez ça très bien, vous connaissez ça par cœur, il n'y a même pas besoin de vous l'apprendre, vous le savez. Moi, ça m'a toujours frappé, c'est que les enfants, on leur apprend pas du tout à se mettre en colère, mais ils arrivent à se mettre en colère. Et alors, je me suis posé la question, voyons, est-ce que ça vient de lui ou c'est parce qu'il m'a vu faire, hein? Parce qu'il nous regarde et ils font comme nous faisons. Voilà. Alors, le fruit de l'esprit. Et tout est lié, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et il donne cette image du sarment qui est rattaché au cep. Si nous demeurons Christ, les qualités qui sont en Jésus se manifesteront aussi par nous. Et c'est cela, l'Église. L'Église, elle ne peut pas être autre chose, eh bien, ce que le Seigneur est. Elle ne peut pas dire autre chose que ce que le Seigneur a dit. Et alors, ça c'est la communion. La communion, on parle justement du Seigneur, et il y a plusieurs points. Un, demeurez en moi. C'est verset 4. Ensuite, il dit... Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, il dit que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles, vous voyez, mes paroles. Pour ça, pourquoi est-ce qu'on dit toujours lire la Bible ? Parce que si vous lisez la Bible, à force de lire la Bible, vous apprenez les paroles du Seigneur. Vous apprenez les paroles, vous, et vous les mémorisez. Elles se font, vous devenez un avec ces paroles. Cinq, eh bien, vous glorifiez Dieu. Si vous demeurez en Dieu, en Christ, eh bien, vous glorifiez Dieu. Ensuite, il y a le sixième point, demeurez dans l'amour, et vous demeurerez dans mon amour, verset 10. Et de même, il donne l'exemple, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Et en fait, il revient encore sur le commandement dont il... Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et on ne peut pas s'aimer comme nous nous aimons, et nous essayons de le faire, mais il faut nous aimer comme Christ nous a aimés. Et aimer comme Christ nous a aimés, ça veut dire renoncer à nos vengeances, renoncer à soi-même, renoncer à notre amour propre, qui a souvent été blessé, vexé, renoncer à soi-même comme lui-même a renoncé en mourant sur la croix. Alors je reviens pour le vigneron. Un, il choisit le terrain rocailleux. Il est mondi taille. C'est pas parce que quelque chose est taillé que c'est forcément le péché. Il recueille le fruit. Il recueille le fruit. Et le fruit, ben, on a souvent donné du fruit de l'esprit l'image de la grappe. C'est-à-dire, il y a simplement plusieurs grains, et tous ces grains sont reliés par un pédoncule au sarment. Et ils sont un. Et il y a quelqu'un d'autre qui a donné une autre image qui peut-être nous aidera. C'est, vous savez, maintenant ils font autrement, mais moi je me souviens dans un temps, eh bien quand il y avait une lampe qui grillait, paf, tout s'éteignait. Hein. Et c'est un peu ça, vous voyez. C'est souvent le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la douceur, etc. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse défaut, qui s'éteint. Ça peut être la patience, on pète les plombs, paf, et basta. C'est éteint, c'est fini. Et on n'est plus en communion. On n'est plus en communion avec Dieu. Et alors, on est malheureux. Et alors, eh ben, comment faire? Eh ben, il faut demander pardon. Et dire, Seigneur, ben, je te demande pardon parce que je me suis mis en colère et le sang de Jésus, son fils, nous dit toujours Jean, l'apôtre Jean, dans sa première épître, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il faut pardonner, il faut les remettre. Et puis tout de suite, eh bien, la lampe est de nouveau restaurée et de nouveau elle brille. Alors, le fruit. On dit, vous portez pas beaucoup de fruits. Et ce qui est frappant, c'est que Paul, lorsqu'il parle du fruit de l'esprit, il en parle au singulier. Et pourtant, il note l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, etc. Mais c'est au singulier. Pourquoi ça fait un tout? Il faut pas simplement dire, je suis patient. Hein? Non, je suis aussi plein d'amour. Je suis aussi patient que je suis plein d'amour. Je suis aussi maître de moi-même que je suis plein d'amour, etc. Ça fait un tout, c'est un tout. Eh bien, le Seigneur recueille le fruit. Et il recueille un peu comme dans le livre des Cantiques des Cantiques, où le bien-aimé dit, il va dans son jardin pour cueillir les fruits. Il veut goûter les fruits, vous voyez. Et quand le Seigneur vient le dimanche matin à l'église, eh bien, il cherche à cueillir les fruits. Où sont les fruits? Alors, si nous avons que des fruits de colère, ou des fruits d'injustice ou de méchanceté, eh bien, je ne sais pas, il faut vraiment beaucoup de patience pour qu'il reste au milieu de nous, vous voyez. Et il vient pour cueillir le fruit, vous voyez. Alors, il recueille le fruit. Et puis, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est pas le sarment qui donne des conseils au Seigneur. Parce que souvent, eh bien, c'est nous qui disons, Seigneur, tu sais, ben, si tu étais intelligent, ben, écoute, on veut te donner un petit conseil, eh bien, tu sais ce que tu devrais faire, et ça, c'est nos prières, vous voyez. Dans nos prières, on conseille Dieu, comme s'il n'était pas assez grand, et comme s'il n'était pas Dieu, vous voyez. Et là, dans nos prières, faisons attention, parce que souvent, eh bien, nous essayons de dire ou de demander des choses, eh bien, que Dieu, il doit en rire, parce qu'il doit dire, c'est ridicule, comme certaines personnes vous demandent des choses, et vous dites, mais c'est complètement ridicule ce qu'ils demandent. Mais c'est Jésus qui nous donne l'exemple. Il dit, eh bien, de prier que ta volonté soit faite, et de chercher à comprendre la volonté de Dieu. C'est de dire, Seigneur, éclaire-moi, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Mais c'est pas au sarment de dire à Dieu ce qu'il faut faire, au vigneron ce qu'il faut faire, mais quelle est la vigneron? Qu'est-ce qu'il veut le vigneron? Eh bien, c'est que tu portes du fruit, et que tu sois un beau, et un bon plutôt, pas un beau, mais un bon, encore que maintenant on regarde aussi la lumière dans le verre de vin, et on, alors beau et bon, Émilion, Saint-Émilion, Fortelvin, que vous voulez, mais c'est ça que Dieu veut, que tu sois un bon vin qui réjouisse. Et quand on dit un bon vin, c'est pas seulement la grappe, mais c'est aussi le vin. C'est le vin, eh bien, c'est toujours dans la Bible aussi la joie. Que tu réjouisses le cœur de Dieu, mais que tu réjouisses aussi tes frères et tes sœurs. Et le dernier point, c'est, eh bien, le vigneron, ben, n'a rien à nous expliquer. Il n'a rien à nous expliquer. Le vigneron n'explique pas la vigne, voilà, je vais faire ceci, voilà, je vais faire cela. Il est celui, eh bien, qui peut, comme pour Abraham, dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, mais il peut aussi ne rien nous dire. Il y a beaucoup de choses que nous sentons arriver, mais Dieu n'en a pas encore donné la complète explication. Ça viendra. Alors, pour terminer, parce qu'on va prier, c'est demeurer en moi. Demeurez en moi et en vous. Et je donnerai l'image de la voiture. Si vous êtes dans la voiture, ben elle vous conduira, elle vous transportera, elle vous portera, elle vous fera même apprécier le vertige de 250 km à l'heure, voyez, mais enfin ça je vous le conseille pas trop, hein. C'est grisant, voyez, et elle vous porte. Elle vous amène à une destination. Et c'est l'image que je voudrais qu'on retienne. Demeurer en Christ, c'est monter dans sa voiture. C'est lui qui conduit. Ce serait l'image que Jésus emploierait. Et aujourd'hui, si Jésus venait, je ne pense pas qu'il puisse nous donner l'idée ou l'image du vigneron, parce qu'en fait, personne ne sait plus ce que c'est qu'une vigne et comment on la cultive. Surtout comment on la cultive, voilà. Mais il dirait, eh bien, celui qui demeure en moi, c'est celui qui monte dans ma voiture. Alors, faut monter dans la voiture. Et ensuite, eh bien, qui se laisse conduire par moi. Ensuite, c'est moi qui choisis la destination. Alors, ça peut être un lacet, une montagne, ça peut être aussi l'autoroute, etc. C'est moi qui choisis la destination. Et c'est moi, eh bien, qui règle, eh bien, la manière de rouler, etc. Vous voyez, c'est cet abandon, c'est s'abandonner Christ. Entrer dans la voiture, dire je renonce à quelqu'un d'autre, j'ai tellement l'habitude de conduire, que des fois, eh bien, je me surprends à freiner, accélérer, ça vous arrive pas, ça? Quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous vous dites, je freine. Alors, il freine pas du tout, et puis vous, vous freinez, voyez. Alors, des fois, je me dis, mais c'est un peu comme ça avec le Seigneur. Je dis, oh là là là, il faut que je freine, ou il faut que j'accélère. Et lui, pas du tout, voyez. C'est lui qui guide, qui dirige. Et ce matin, eh bien, c'est ça. Dieu veut nous amener à destination. Il veut nous amener dans une zone où nous produirons du fruit. C'est pour ça que l'image de la vigne est quand même beaucoup plus, parce que ça peut être simplement du tourisme, etc. Mais même si on était conduit pour que Dieu nous fasse connaître, eh bien, les subtilités, les joies, de son royaume, eh bien, ce serait déjà formidable. Alors donc, montez dans la voiture. Écoutez, là, je dirais, écoutez le Seigneur, parce qu'on peut écouter, et il y a beaucoup de personnes qui du temps de Jésus écoutaient, mais dont Jésus dit, eh bien, que leur esprit est ailleurs. Écoutez comme écoute un disciple, et pour devenir disciple. C'est pour devenir disciple. Demeurer dans la voiture, c'est demeurer dans la proximité de son amour. Voyez, nous essayons de nous aimer. Et moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que c'est impossible. C'est impossible de s'aimer. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans l'Église, parce qu'on veut s'aimer d'une manière humaine. Et c'est impossible. C'est de le laisser venir en nous, lui nous a aimés. Les autres, comme lui, nous aime tous. Mais ça veut dire aussi que là, nous allons avoir des problèmes, parce que il va se faire persuasif et il va dire « Pardonne, pardonne, pardonne ». Oh non, mais de quoi j'aurais l'air? Tu n'auras peut-être pas l'air d'être fin, mais le fin du fin, c'est que tu auras une belle victoire. Voilà. Voilà. Pardonne. Non, je veux pas. Oui, je pardonnais, mais je ferai comme les Corses. Je mettrai une cagoule sur la tête. Vous voyez? On veut bien pardonner, mais avec une cagoule, vous voyez? Pour pas qu'on voit. Hein? Non, visage découvert. Visage découvert. Voyez. Et ça, nous avons horreur de ça. Ça, vous voyez, relisez ce passage. Moi, je vous en ai donné quelques éléments. Demeurez en Christ. 10 fois. Pourquoi? Pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Pas le nôtre, mais le sien. Et alors, c'est quoi? Pardonner. Ben, tu feras une expérience, quand tu pardonnes, par exemple, un exemple, eh bien, tu feras l'expérience de l'amour. De l'amour. Et c'est le fruit. C'est le fruit. Tu pardonnes. Et tu fais l'expérience de l'amour. C'est formidable. C'est délicieux. Comme c'est bon. C'est pas qu'on se soit disputé avec les uns et les autres. Ça n'a pas d'importance. Moi, je me souviens d'un ami. J'étais en classe avec lui. Alors, on ne pouvait pas se sentir. Alors, et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas converti à l'époque. Et puis, on est devenu inséparables. Et c'est souvent ça, comme ça. Les gens qui t'accrochent, ils me disent, c'est bon signe. C'est qu'ils vont devenir inséparables. Que Dieu m'entende. Hein? Que le Seigneur m'entende. Alors, tous les gens qui peuvent pas se sentir là, oh Seigneur, qu'ils soient inséparables. Hein? Que Dieu m'exauce. Hein? Alors, mais c'est ça. Et pourquoi est-ce que je l'aimais? Et pourquoi est-ce qu'il m'aimait? On se serait haché, menu, pour protéger, pour se protéger, vous voyez, c'était formidable. Et je dis, dans l'église, c'est pareil, vous voyez. Une fois qu'on est dans la voiture, eh bien, il faut que je l'aime. C'est pas qu'il faut que je l'aime, j'arrive pas. Eh bien, demandez au Seigneur, et le Seigneur le fera. Priez. Et le Seigneur répondra. C'est le Seigneur qui alors vous fera la grâce de voir ce que c'est que porter du fruit. C'est ça. Et quand vous ferez le fruit de l'amour, de la paix, de la patience, de la douceur, bien, ça vaut le coup. Si un jour nous serons devant Dieu, c'est pour ça que moi je pense à la parole de l'apôtre Paul qui dit, il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Ils n'auront pas grand chose à montrer à Dieu. Pourquoi? Mais quoi? Même pas les âmes qu'ils ont amenées au Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? Où t'en as été avec toi? Les gens de ta famille, t'as été comment avec eux? T'as été comment? Voilà. Je me souviens toujours de Gaston Ramseyer qui disait qu'il y avait un oncle qui était très malade et qui n'avait jamais voulu entendre parler de Dieu. Et puis, dans les derniers jours, il a demandé de venir. Et là, quelques jours avant sa mort, il s'est converti. Il a été touché. Et il a dit cette parole, « Mais maintenant, avec quoi me présenterai-je devant Dieu ? Avec quoi ? Quoi ? J'ai rien dans les mains. Sauvé, c'est vrai, je suis sauvé, je crois qu'il m'a sauvé, qu'il m'a pardonné. Mais mes mains sont vides. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de pardonner, d'aimer, d'encourager, de bénir, etc. C'est terrible ça. Et que nous ne puissions pas nous retrouver un jour devant Dieu avec les mains vides. Sauvé, mais le minimum. Que dois-je faire? Quel est le minimum que je dois faire pour ne pas perdre mon salut? C'est pas la question. Qu'est-ce que je dois faire pour du fruit? Eh bien, c'est demeurer en lui. monte dans la voiture, allez, monte derrière, hein, ou même à côté. Hein. Avec Jésus, il est mort pour vous. Hein. Il est déjà mort pour vous, il a déjà porté vos péchés. Il n'y a pas de place de mort. Dans nos voitures, il y a une place de mort, c'est celle qui est à l'avant. D'ailleurs, toutes elles sont dangereuses, même à l'arrière. Hein. Toutes elles sont dangereuses. Mais avec Jésus, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, j'ai fait que esquisser, commencer un petit peu à vous, que la parole de Dieu nous interpelle, mais demeurez en Christ, demeurez dans son amour. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est de demander au Seigneur de venir dans votre cœur. C'est de lui demander de vous aider pour pardonner, pour aimer, pour être patient, pour être doux, etc. Vous ne le pourrez jamais. Et c'est le Seigneur qui le fait. Et je peux vous dire que quand on fait cette expérience, on est vraiment heureux. On va chanter tout à l'heure. Et pendant qu'on chante, eh bien, il y a des personnes, eh bien, qui sont malades et que Dieu veut bénir.